carré.
À la faculté de Grenoble, entre autres choses, qui connaît admirablement la Bible et la Terre Sainte.
La poule nous donne un peu de temps.
Et qui est près du diocèse de Paris. Voilà. J'ai dit l'essentiel. Voilà.
Je suis à Notre-Dame surtout maintenant, c'est ce qui me plaît maintenant. Enfin, c'est nouveau, mais ça m'a changé la vie. Enfin, ça m'a changé la vie. C'est très chouette. Bon. Donc, je vous propose quelques suggestions sur la confrontation des figures de Pierre et de Paul dans un ordre qui m'a plu. Je dois avouer que c'est un sujet que je connais Pierre d'un côté, Paul de l'autre. Leur croisement, je ne l'avais pas proprement réfléchi. Et donc, je propose quelques hypothèses pour réfléchir à cette question. Je ne sais pas si la date du 21 février a été sélectionnée de manière voulue, mais ça m'a fait, comme demain c'est la fête de la chair de Pierre, je pensais vous introduire d'abord à la tradition latine, le lectionnaire latin qui présente et célèbre donc ces deux figures. En fait, j'aimerais partir de cette tradition contemporaine, remonter à des témoignages de l'écriture directe, donc que dit Pierre sur Paul et que dit Paul sur Pierre, et puis de revisiter ce qu'on pourrait appeler la solution lucanienne qui reprend 30 ans après ces deux figures, pour montrer qu'il y a à la fois, ben vous imaginez, dans les contextes alors de la liturgie contemporaine, dans le contexte paulinien, pétrinien, dans le contexte lucanien, nous avons à chaque fois de grandes différences, de grandes disparités et pourtant une proportion. Alors ça vaut bien sûr pour tout texte, hein, toute herméneutique tâche de reconnaître les contextes, de décontextualiser, de recontextualiser, etc. Il est très intéressant de voir que, au fond, la liturgie déjà fait cette opération. Mais on s'en rend jamais, on n'a jamais le temps de s'en rendre compte. Mais autour de moi, j'ai posé des questions, personne n'avait fait le travail. Alors, regardons un petit peu d'abord les faits. Donc, demain, 22 février, la chaire de Saint-Pierre, on lit comme première lecture un témoignage de la première lettre de Pierre sur la bonne manière d'exercer le pastorat. Qu'est-ce qu'un bon pasteur? Et donc un peu à l'image du Christ. Ces textes de Pierre sont intéressants, souvent l'exégèse les déconnecte du personnage de Pierre. En fait, je trouve qu'on n'a pas trop de mal à retrouver des indices d'authenticité, du point de vue de l'auteur de la lettre de Pierre, avec des éléments qui sont propres à son expérience, et notamment la manière dont il a connu le Christ comme bon pasteur. Et comme évangile, c'est Matthieu 16, c'est-à-dire la confession de Saint-Pierre, dans une des versions des évangiles, on verra qu'elles sont loin d'être unanimes dans les quatre. Il n'y a que Matthieu qui en fait une confession plénière. On verra la solution entre autres lucanienne qui est assez étrange. Donc il y a un mois, nous fêtions la conversion, entre guillemets, parce que ça, c'est le titre officiel de la fête du 25 janvier. La dimension de conversion dans le texte n'est pas le plus fort, c'est plutôt une vocation, disons, de Paul. Et là, on lit un des récits. Alors, il y a trois récits, vous savez, dans les actes. Hein. On lit soit acte 9, soit acte 22. Acte 9, c'est le narrateur qui parle. Acte 22, c'est Paul qui est mis en scène à Jérusalem, dans un public juif. Et chapitre 26, dont on ne parle pas, c'est dans un contexte païen. Il est à Césarée. Et comme évangile, on met la deuxième finale de Marc, sorte de résumé un peu tardif, des apparitions pascales. Alors, on fête la solennité de Pierre et de Paul le 29 juin. Et là, il y a deux lectionnaires, la veille au soir ou le jour. Alors, acte 3, on met Pierre en scène avec l'autre apôtre Jean, hein, la guérison d'un boiteux à la belle porte, à la porte du temple. Ou bien, plus intéressant, plus symbolique, 12, la délivrance miraculeuse de prison de Pierre. C'est un texte qu'il faut connaître parce que il est tout à fait codé et très facilement décodable. Hein, c'est pas un mystère. En deuxième lecture, car c'est une solennité, alors Galates 1, c'est le récit de Damas du côté de Paul. C'est Paul qui raconte de manière indirecte sa propre vocation dans la lettre aux Galates, chapitres 1 et 2. Alors, un des classiques, bien sûr, c'est de confronter ce que Paul dit de sa propre vocation et ce que Luc en dit 30 ans plus tard. Nous connaissons encore une fois les contextes et on peut analyser les déplacements qui sont opérés par Luc, et ces déplacements sont opérés d'une certaine manière au chapitre 9, d'une autre manière au chapitre 22, d'une autre manière encore au chapitre 26. On ne triche pas. Et on ne triche pas, on ne veut pas raconter de la même manière, il faut raconter différemment, il y a une technique et une intention. Et alors comme évangile, soit Jean 21, alors Jean 21, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors tradition johannique, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Ou alors de nouveau Matthieu 16, et Matthieu 16 comme pour la chair de Pierre, si vous connaissez Rome, hein, dans le tambour de la basilique Saint-Pierre, tu es Petrus, etc. C'est toujours ce même texte. Dans la liturgie encore, mais alors une question que aucun liturgiste ne m'a... J'ai posé la question 50 fois, on n'a jamais répondu. Comment se fait-il que dans le canon romain, Paul soit inséré dans la liste des 12 apôtres, alors qu'il n'en fait pas partie, et que Matthias, qui a remplacé Judas, hein, donc n'ayant pas témoigné, Matthias se retrouve dans la deuxième liste, alors qu'il devait faire partie de la première. Et là, c'est un peu curieux. Et alors, plus ça va, plus la tradition avance, et plus, entre guillemets, on réconcilie, ou on concilie, je ne sais pas, les figures de Pierre et de Paul, qui, à l'origine, connaissent des positions plutôt séparées. Alors, est-ce que c'est une récupération, ou est-ce que c'est un travail d'approfondissement dans l'histoire de l'iconographie, et y compris dans la tradition grecque, vraiment, y compris dans la tradition grecque contemporaine, l'icône de Pierre et Paul qui s'embrassent est très populaire. Donc cette réconciliation n'est pas que romaine, elle est aussi orientale, malgré une certaine méfiance pour la figure de Pierre, surtout telle que l'Église latine a pu la développer. Alors oui, bon, ça c'est l'état des lieux aujourd'hui. Comment en sommes-nous arrivés à cette tradition? Alors, des textes directs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jugement de Pierre sur Paul. Alors, ça vaut la peine d'être lu. C'est très drôle. C'est dans la deuxième lettre de Pierre. Son authenticité pose quelque un certain nombre de questions, mais elle est quand même attribuée à Pierre. Et puis, il y a quelques passages qui sentent un petit peu la patte de Pierre. Donc, dans la deuxième lettre de Pierre, qui n'est pas très connue, au chapitre 3e, c'est dans sa conclusion. Dites-vous bien, au verset 15, donc 2 Pierre 3,15, dites-vous bien que la longue patience du Seigneur, c'est votre salut. Une réflexion alors assez paulinienne d'ailleurs, oui, hein, Dieu patiente pour faire justice, hein, prendre conscience et de son péché et du pardon. Là on est tout à fait dans la continuité. Alors c'est dans ce sens d'ailleurs, dit Pierre, que Paul, notre frère et ami, hein, on voit l'icône où ils s'embrassent, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Alors les compliments, vous savez, entre grands personnages, c'est quelquefois, ça annonce des choses bizarres. Hein. C'est aussi ce qu'il dit dans toutes les lettres où il traite de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles, dont les gens ignares et sans formation tordent le sens, comme ils le font aussi des autres écritures, pour leur perdition. Hein. Vous voilà prévenus, tenez-vous sur vos gardes. Oui. Donc témoignage de Pierre, oui, en prenant un tout petit peu de distance, il trouve effectivement que Paul, c'est assez compliqué quand même. Hein, il se prend un peu la tête. Hein, et ça va être d'ailleurs une des caractéristiques, je crois, de la confrontation entre les deux, qu'on essaiera, peut-être de manière un peu caricaturale, mais de pouvoir esquisser sur ces deux-là. Donc un témoignage direct, même si l'authenticité de la deuxième de Pierre n'est pas vraiment établie. Les lettres apostoliques sont quelquefois composites. Elles forment une unité maintenant, elles n'ont pas forcément été unifiées dès le départ, donc il peut se trouver des passages plus anciens et authentiques dans une lettre qui, dans sa dernière rédaction, est plus tardive. Donc on peut quand même garder, d'ailleurs je ne vois pas très bien sinon comment on pourrait imaginer situer ce témoignage. Alors nous avons du côté de Paul, donc dans la lettre aux Galates, nous avons des témoignages de l'autre sens, donc authentique, de Paul sur Pierre. Et c'est très intéressant puisque nous avons dans le Nouveau Testament des événements qui sont racontés par des témoins divers, directs ou indirects, et là encore, la différence et la proportion sont intéressantes à discerner. Ce qu'on appelle souvent la thèse de la lettre aux Galates, la proposition principale, on la trouverait dans les versets 10 et 11 du premier chapitre. C'est très intéressant comme idée, et je vous le déclare. Donc, l'évangile que je vous annonce n'est pas selon l'homme, n'est pas d'inspiration humaine, pourrait-on traduire. D'ailleurs, ce n'est pas par un homme qu'il m'a été transmis ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, la lettre aux Galates, c'est une lettre très polémique, très pleine de pathos, faite dans l'urgence peut-être, dont les Romains sont une version plus apaisée et plus complète. Mais quelquefois, dans l'émotion, on dit aussi des choses importantes. Oui. Donc tout le problème de la position de Paul, même par rapport à Pierre, en fait tient dans ce que Paul établit comme une thèse, dont il va démontrer. Toute la lettre revient sur cette idée-là. Que l'évangile ne soit pas d'inspiration humaine, c'est-à-dire qu'il soit d'inspiration divine, il le dit sans cesse. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Le problème, c'est la question de la transmission de l'évangile. Alors, dans le contexte, ce n'est pas par un homme. Mais on peut comprendre, puisque l'évangile n'est pas d'inspiration humaine, donc c'est pour dire qu'il y a une inspiration divine quelque part. Mais là, il y a une deuxième proposition après, il m'a été transmis par une révélation de Jésus-Christ. Et là, on a un génitif qui, dans ce contexte, est un génitif subjectif. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui lui a transmis cet évangile, et ça nous ramène à l'événement de Damas. L'événement de Damas qui lui-même va être relu, voyez, par Luc en essayant de résoudre le problème que ça pose. Alors, quelques versets plus loin, Paul rappelle son activité, sa naissance et son développement, ses études dans le monde juif, donc pharisien. Et alors, au verset 15, « Ayant fait cela, lorsque celui qui m'a mis à part, ça vient l'aphorisme, depuis le sein de ma mère, volation prophétique, m'a appelé, l'ecclésiste, l'élection, voyez, par sa grâce, a jugé bon de révéler, voyez, nous avons le mot révélation au verset 12, le verbe révéler au verset 16, donc de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens, encore une fois c'est Paul qui parle, aussitôt, sans recourir littéralement à la chair et au sang, on traduit en français dans la tobe, aucun conseil humain, ni monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi. Ça, c'est la petite, c'est son écharde, je crois. Je vous propose une proposition sur l'écharde de Paul. Et je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas, Pierre, et je suis resté 15 jours auprès de lui. Bon, 15 jours, c'est pas mal auprès du pape, mais après 3 ans, ça ne fait pas beaucoup. Tout est une question de proportion. Et donc les 15 jours sont peanuts, voyez, par rapport à ce qu'il a fait avant, sans voir aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur, qui doit être un troisième Jacques, donc en plus des deux apôtres. En entendre, alors là donc c'est le témoignage de Paul sur lui-même. En écoutant ça, je vous le répète, je vous le relis, et sans recourir à la chair et au sang, ni monter à Jérusalem, je suis parti. Et sans recourir, oui, nous sommes ici dans la vocation de Paul racontée par lui-même. On parle de révélation et on nie que ça vient de la chair et du sang. Ça vous rappelle certainement un autre texte. À Saint-Pierre. Alors, Matthieu 16, oui. Si nous prenons Matthieu 16, qui est le... Alors, oui, Matthieu 16, comment situer Matthieu par rapport à Marc, Luc et Jean, c'est faisable, enfin, c'est pas ce soir qu'on va le faire. Et c'est parmi les quatre, c'est dans les quatre évangiles, la confession plénière par Pierre de l'identité de Jésus, mais qui n'est pas du tout attestée par les autres évangélistes. C'est certainement une sorte d'anticipation. Et si nous regardons Matthieu 16, même si on pourrait le réciter en peu d'effort par cœur, et donc nous sommes dans c'était l'évangile d'aujourd'hui selon saint Luc, Jésus interroge ses disciples, etc., donc un prophète, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, Christ et Fils de Dieu, pardon, c'est ce qu'on va trouver dans la finale de l'évangile de saint Jean. J'ai écrit tout ça pour que vous croyiez que Jésus est un, le Christ, deux, le Fils de Dieu. Et ce n'est pas une sorte de continuité, c'est un deuxième temps. Le Messie n'est pas forcément, au sens strict, le Fils de Dieu. Alors, donc ça, c'est, Jésus reprend, hein, « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Yona, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Oui, c'est-à-dire que Matthieu raconte la vocation de Pierre dans son évangile comme Paul raconte sa propre vocation dans la lettre aux Galates qui la déconnecte de la tradition apostolique. Vous voyez, il y a vraiment ici un problème extrêmement, on va dire, assez grave, voyez, sur la situation de Paul qui, de sa propre part, est extrinsèque au collège apostolique et qui, dans saint Matthieu, est raconté de la même manière que celle de Pierre.
Ça
réintègre
Paul quasiment.
Ben oui, alors là nous retrouvons des éléments qui vont autoriser la tradition continue à configurer ensemble les deux personnages. C'est d'autant plus compliqué que si on peut établir que Paul a eu comme disciple, même de manière un peu compliquée, Marc, l'auteur du deuxième évangile, et Luc, l'auteur du troisième évangile, on a beaucoup de mal, y compris en critique littéraire, à trouver les contacts entre l'évangile de Matthieu et la théologie de saint Paul. Et aucun élément de la tradition extrinsèque, des pères d'Église ou des pères apostoliques, personne ne raconte de contact entre Matthieu et Paul. Alors comment se fait-il qu'on trouve dans l'évangile de saint Matthieu ces éléments? Alors d'autant plus que dans cette même lettre aux Galates, au chapitre 2, on va avoir cette répartition des tâches entre Pierre et Paul qui, du côté de Paul, est extrêmement tranchée. Donc à Pierre est confiée l'évangélisation des circoncis, donc des judéo-chrétiens, ou des juifs, et à Paul, l'évangélisation des païens. Alors, c'est pas du tout ce que raconte Luc, voyez, puisque Paul va aller chez les païens, mais où qu'il aille, il commence toujours par aller à la synagogue, y compris en acte 28 à Rome, et Luc raconte toujours que c'est Pierre qui a baptisé le premier païen, et Pierre va continuer à faire cette tâche. Donc cette espèce de séparation tranchée dans la lettre aux Galates ne semble pas tout à fait réaliste. Bien que ces deux missions sont connotés en 2.10, toujours de la lettre aux Galates, par un geste extrêmement intéressant, c'est-à-dire que qu'on aille vers les païens ou vers les circoncis, dans les deux cas, le signe de l'évangélisation authentique sera qu'à chaque fois, on aura souci des pauvres. Et qu'on aille chez les uns ou chez les autres, c'est le souci des pauvres qui sera l'attestation que la mission est bien selon l'Évangile. Et c'est toujours intéressant, y compris pour la mission contemporaine. Est-ce que ça reste un critère ? Dans la deuxième partie du chapitre 2, on a le célèbre conflit entre Pierre et Paul, que la plupart des lecteurs avalisent de manière sans critique, etc., en n'oubliant jamais que cet incident, il est raconté par Paul et du point de vue de Paul. C'est-à-dire, Paul critique l'attitude de Pierre dans la manière de se comporter envers les chrétiens qui viennent du paganisme et les chrétiens qui viennent du judaïsme. C'est-à-dire que font-ils ou faut-il faire table commune ? Alors, table commune, ce n'est pas seulement, bien sûr, pour des questions culturelles et de vivre ensemble. Faire la table commune habituellement a comme perspective de pouvoir participer à la même Eucharistie. Donc il y a un enjeu sacramentel et même un enjeu de reconnaissance à la fois christologique et ecclésiale qui est à la clé. Et alors que Pierre se soit planté là-dessus, voyez, c'est la vie de Paul, mais comme dans tout procès, on aimerait avoir la vie de Pierre. Nous ne l'avons pas. Mais je crois qu'il est raisonnable de tenir le propos de Paul pour son propos à lui et en laissant ouvert une défense parfaitement vraisemblable de Pierre qui pourrait s'expliquer et qu'on trouvera peut-être au moins entre les lignes dans la théologie lucanienne. Et donc, qui est... indirect. Mais voyez, les éléments que nous avons n'ont pas fini d'être exploités, et c'est l'occasion de dire simplement que les écrits du Nouveau Testament sont encore l'objet d'études et de découvertes qui n'ont pas fini de nous étonner, parce que des questions aussi fondamentales que la situation en vis-à-vis de Pierre et de Paul n'est toujours pas clair, notamment à cause de Matthieu 16 et de Galates 1. Oui, donc là, il y a des thèses à faire sur le sujet. En continuant l'enquête, un sujet très intéressant, c'est le rapport, bien entendu, de Pierre et de Paul à Jésus. Oui. Alors, Paul, évidemment, c'est plus facile à traiter. On connaît mieux Paul, finalement, au point de vue historique, que Jésus lui-même. Jésus n'ayant rien écrit sur lui, Paul ayant écrit de lui-même, ses lettres étant bien établies, bien reconnues, l'étude est assez facile. Ce qui est curieux, c'est d'établir donc, ce qu'on pourrait appeler la christologie de Paul. En théologie, on a une collection tout à fait intéressante, qui s'appelle « Jésus et Jésus-Christ » chez Desclée. Et on a le Jésus, il y a 100 volumes, et on a le Jésus de Sainte Thérèse d'Avila, le Jésus de Saint-Luc, le Jésus, etc. On n'a pas le Jésus de Paul. Et la collection est terminée maintenant, donc ça fait 40 ans qu'elle a commencé. Il ne s'est trouvé personne pour rédiger la christologie de Paul, alors que c'est quand même relativement élémentaire. N'importe quel grand témoin, théologien, saint, mystique, bibliste, ou quoi, vous voyez, a une christologie, présente une christologie. Vous voyez. Là, elle n'est pas faite. Vous voyez. On se demande même, est-elle faisable ? La question du silence de Paul sur Jésus, alors sur quel Jésus avons-nous ce fameux silence de Paul, c'est en particulier sur, non pas sur le Jésus Seigneur, mais c'est le Jésus des récits évangéliques. qui est Jésus, né de la Vierge Marie à Bethléem, qui a grandi, le ministère galiléen, la montée vers Jérusalem. Alors, Passion, Résurrection, on a des éléments, mais on n'a pas grand-chose. Hein. Je vous ai cité un article de Chantal Régnier, vous voyez, dans les recherches de sciences religieuses. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet, mais question et implication du silence de Paul sur Jésus, et notamment la question des miracles. Oui. Au point de vue historique, il est assez clair que Jésus a attiré l'attention de ses contemporains, non pas tant par son enseignement, d'abord, mais parce que les gens venaient se faire guérir de leur maladie. On a lu les Béatitudes la semaine dernière. Les gens viennent à Jésus parce qu'il les guérit. Et comme ils sont là, ils vont l'écouter. Hein. On sait qu'à Nazareth, ce qui les intéresse, dans Luc 4, c'est ce que Jésus a fait comme miracle à Capharnaüm, ben, vient les faire aussi dans ton village. Paul ne parle jamais des miracles de Jésus, alors qu'il parle des miracles qui sont faits dans la communauté chrétienne. Vous voyez, hein, il y a des miracles, il y a beaucoup de signes, alors, pas simplement racontés par Luc, mais racontés par Paul, vous voyez, en plusieurs moments. Mais jamais on dit que ce sont les mêmes, par exemple, que ce que Jésus a fait, ce que fera Luc. Oui. Luc marche par synchrésis, hein, donc ce que Jésus a fait, Pierre le fait, ce que Pierre fait, Paul le fait. Et pareil pour les paroles. Oui, on a bien donc cette mise en convergence, qui est une technique classique, et qui révèle quelque chose d'intéressant sur l'authenticité de ce qui se passe dans la communauté. Voire même, dans le célèbre début de la première lettre aux Corinthiens, sur les 4 premiers chapitres, avec la folie de la croix, scandale pour les uns, folie pour les autres, ça semble même récuser tous les miracles comme étant une sorte de luxe qui faciliterait la foi. Or, il ne s'agit pas de faciliter la foi, mais d'être au pied de la croix et de se laisser submerger, vous voyez, par cette folie, par ce grand mystère. Vous voyez. Alors, on peut comprendre. Alors, il y a un phénomène tout de même qui permet de rendre compte de cela. C'est ce qu'on pourrait appeler l'appropriation de la personne de Jésus par le baptisé. Vous connaissez la phrase de Paul, hein, je ne suis pas, c'est plus moi qui vit tout seul, le Christ vit en moi. Ce qui fait que, mais non seulement lui, et par exemple un texte comme la lettre de Jacques, va reprendre nombre d'enseignements que nous avons dans l'Évangile, en partie de saint Matthieu, mais alors ça, entre Jacques et Matthieu, ça va bien comme correspondance, mais Jacques ne cite pas Jésus, il reprend son enseignement, de manière personnelle. Oui. Il ne prend pas l'art ni la prudence de la citation. Et d'ailleurs, faut-il dire, Jésus a dit qu'il fallait s'aimer les uns les autres. Moi, je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Alors, certains appellent ça le style gnomique. Et je ne sais pas si c'est la vraie solution, mais c'est une instance d'évangélisation qui est intéressante à identifier et à apprécier. Oui. Quel est l'intérêt de citer, hein, le pape a dit qu'il fallait, hein, ou bien le témoin, moi je vous dis. Vous voyez, ça n'est pas du tout un mépris de l'autorité qui vous surplombe ou qui vous précède, mais c'est une implication personnelle. Et on peut penser que le traitement des miracles irait aussi dans ce sens-là. Ce n'est pas la peine de dire « c'est comme Jésus l'a fait, on le sait, l'important c'est de les remettre d'aplomb et de les mettre surtout en acte. » Quelques éléments sur Jésus sont donnés de manière souvent inattendue. Il est né d'une femme, bon, il est sans péché, il est « Amen ». On a des petits éléments comme « il vient comme un voleur ». Oui, alors ça, c'est des éléments qu'on a évidemment dans l'Évangile et dans les lettres de Paul. On a bien l'idée que la parénèse ou la morale chrétienne, elle s'enracine bien dans le comportement concret de Jésus. D'ailleurs, c'est souvent ça qui anime, qui suscite une parole sur Jésus, ce n'est pas l'information sur ce que Jésus a fait, mais c'est la légitimation de ce qu'on demande aux chrétiens. Et on a ça aussi bien dans les lettres de Paul que dans les lettres de Pierre. Il y a un problème avec l'autorité. Ben, comment Jésus s'est-il comporté? Vous avez un patron teigneux. Comment Jésus s'est comporté devant des gens qui étaient de mauvaise humeur? Vous avez un problème de domestique. Comment Jésus a-t-il fait? Oui, c'est toujours de l'indirect. C'est intéressant de voir que finalement les premiers écrits chrétiens au plan chronologique ne nous racontent rien d'explicite sur le Christ, même pas Saint-Pierre, mais Paul non plus, ils ont là la même attitude. C'est toujours occasionné par le problème que les chrétiens rencontrent. C'est d'autant plus intéressant que dans la contemporanéité, il m'est arrivé souvent dans des disputes que les gens avaient de dire stop à bas les armes, halte au feu, et si on se demandait ce que Jésus aurait pu faire. Alors, souvent je fais l'unanimité contre moi, qu'est-ce que ça vient faire? Et là je me dis que, bon, j'ai encore du boulot pour... Non mais vous voyez, cette référence, alors qu'elle est première, vous voyez, dans les toutes premières catéchèses. Voyez. Alors, ici je crois que nous touchons le problème justement de la concurrence entre les deux personnages. Vous voyez. En fait, on voit bien que les évangiles, pour reprendre cette littérature un peu plus tardive, a toujours comme problématique d'identifier à la fois l'unité du personnage du Christ depuis le début jusqu'à la fin, si j'ose dire, en étant très très vague, et en même temps de bien montrer qu'il y a un clivage entre avant Pâques et après Pâques. Et ça, c'est magnifiquement dit, par exemple, dans la théologie de saint Paul. Voyez, l'évangile, le mot d'évangile, pas les récits, hein, mais le changement, on va dire, hein, l'événement, Christ, voyez, vient de Dieu. Ça, c'est dans les Romains, chapitre 1, versets 3 et 4. L'évangile vient de Dieu, voyez, comme il le dit dans toutes ses lettres, hein, n'est pas à mesure humaine, à mesure divine. Il concerne son Fils, de la descendance de David, Katasarka, selon la chair, établi fils de Dieu par la puissance de l'Esprit, par la résurrection d'entre les morts. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est la résurrection, au fond, qui modifie le statut d'un personnage qui pourtant est le même. Il y a un avant et un après, et tout le Nouveau Testament est arc-bouté, au fond, sur ce problème de l'identité et de la nouveauté de Jésus avant et après Pâques. Encore une fois, c'est le même, mais pas dans le même état. Et au fond, toute la théologie qui va se développer dans la suite des siècles, dans les grands conciles, va de nouveau se concentrer sur cette question, sans jamais trouver, comment dirais-je, l'explication complète. Il y a toujours un moment où l'inconnaissance se manifeste et ce qu'on appelle le fameux mystère. Et donc on ne peut pas tout expliquer dans cette unité comme dans cette dualité. Maintenant, au plan de l'existence de nos personnages, c'est là que nous avons une différence fondamentale. Qu'est-ce qui caractérise l'apôtre? C'est d'avoir connu Jésus depuis le baptême par Jean-Baptiste, juste à son enlèvement, c'est-à-dire juste à l'ascension. Et rappelez-vous, dans les actes d'après Saint-Luc, lorsque on doit remplacer Judas, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il est mort sans avoir témoigné, donc sans avoir rempli son rôle d'apôtre, il faut le remplacer. Un apôtre qui a témoigné, quand il est mort, c'est fini, on ne le remplace pas. Le chiffre 12 ne dure que le temps des 12 apôtres, il n'y a pas d'autre institution à 12. Et alors, lorsque on se rassemble après l'ascension, dans la petite communauté qui est là, il y a quand même deux personnages, Matthias et puis Joseph, qui ont ces qualités. Donc là encore, quand on se représente le ministère galiléen, il n'y a pas que les 12, Il y a des femmes qui sont là, il y a des disciples, et puis il y a des disciples qui vont et qui viennent, et il y a des disciples stables, semble-t-il, puisque Matthias va compléter le collège des 12. Et Paul s'appelle apôtre, mais dans un sens général, en tant qu'envoyé. Envoyé. Mais il y a le sens strict, un des 12, et donc les 12 sont témoins avant la mort, jusqu'au calvaire, et ils ont connu Jésus pendant 40 jours après la résurrection. Et c'est capital parce que on voit bien que l'enseignement que Jésus a donné avant de mourir a fait un flop. Et les évangiles témoignent ce qu'on appelle une sorte de déconstruction des apôtres, considérés comme des témoins oculaires. C'était un avantage, mais n'arrivant pas au statut de serviteur de la parole et échappant à la dynamique de la résurrection qui, dans le chapitre 1er des Actes des Apôtres, fait que Jésus reprend son enseignement, mais avec un statut particulier. Ressuscité d'entre les morts, on peut penser que son autorité, évidemment, n'est plus la même. Et vous remarquez que dès avant la Pentecôte, les apôtres, Pierre notamment, 40 jours d'entretien avec Jésus, le rend capable, dès avant la Pentecôte, d'analyser la situation du manque, de la désertion de Judas, pour prendre la décision, encore une fois avant la Pentecôte, de faire un geste que Jésus avait fait, c'est-à-dire choisir un homme et l'incorporer dans les 12. Oui, Matthias est choisi avant. Donc Pierre est rendu compétent à ce moment-là. Pierre a connu Jésus avant, il a connu Jésus après. Avant Pâques, après Pâques. Et ça, c'est ce qui manque à Paul. Et moi, il me plaît, comme c'est très ouvert, il me plaît de penser que l'écharde dont parle Paul dans les Corinthiens, c'est justement d'avoir loupé le maître par excellence. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en même temps, imaginez, dans le temple de Jérusalem, il y avait Rabbi Gamaliel, très coté au plan des écoles pharisiennes, juives, etc., reconnu, et le jeune Paul de Tarse, envoyé à grands frais pour ses études, et admis dans ce cercle prestigieux qu'était ce grand rabbi, dont la succession ensuite a continué d'être prestigieuse dans le monde juif. Oui, mais à 200 mètres de là, il y avait le rabbi Yeshua, qui lui n'avait pas beaucoup de titres académiques, mais qui a été reconnu quelques semaines ou quelques mois plus tard comme le Messie, fils de Dieu. Et d'avoir loupé ça, je crois que Paul ne s'en est jamais remis. Et j'ai échafaudé cette hypothèse à propos d'un prêtre parisien qui était tellement fanatique de Jean-Marie Lustiger, mais qui était arrivé sur le tard, qu'il ne s'est jamais remis de ne pas avoir été vicaire de Lustiger à Saint-Jacques-de-Chantal en 70.
Voyez. Il n'avait connu que ressuscité.
Il ne l'avait connu que plus tard et il manquait. Voyez, ça lui déformait le. Et je pense que Paul. Non, mais vous vous rendez compte de le loupé que ça pouvait représenter a posteriori. À 200 mètres près, il tombait sur ce personnage unique, évidemment, et qu'il a reconnu ensuite comme étant unique. Et ça, c'est un véritable problème, aussi bien pour identifier la réalité de l'autorité apostolique avec ce fameux passage, et puis le que devient l'autorité de quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas ce double contact, okay, alors qu'il aurait pu l'avoir. Et ça, je crois que c'est un problème, au fond, de témoignage sur la réalité du Christ, qui, encore une fois, qui continue, je crois, peut-être d'ailleurs par omission, mais d'obséder aussi bien la théologie que l'exégèse, au fond. Le rapport, vous voyez, entre entre la connaissance historique et la connaissance théologique a beaucoup progressé, notamment au XXe siècle, mais n'est pas abouti. C'est toujours un chantier inachevé, peut-être tant mieux d'ailleurs. Il n'est pas forcément question, vous voyez, qu'il soit avant la fin du monde achevé, mais au moins identifié. Il y a trop de maladresse sur cet inachèvement ou sur cette incomplétude que l'on pourrait vivre de manière plus paisible, mais au moins en sachant, comme Paul, qu'il y a toujours une écharpe. Même les écrits de Benoît XVI sur Jésus de Nazareth, qui au point de vue vraiment de l'herméneutique et de la connaissance à la fois historique et théologique, arrivent quand même assez haut, manifestent explicitement qu'à un moment, on s'arrête. Voyez, on ne peut pas dire ce qu'on aimerait pouvoir dire. Voyez, mais cette frustration peut être heureuse ou malheureuse. Peut-être un manque ou alors le désir ou l'occasion d'aller plus loin. Donc, vous voyez, ça c'est ce que je ne conclue malheureusement sur rien, mais au moins nous avons les données, vous voyez, qui sont l'objet d'une véritable étude. Alors, on a quand même une synthèse qui existe, c'est ce qu'on appelle la solution lucanienne. Luc est le premier, voire enfin, le grand témoin dans le Nouveau Testament à opérer ces deux expériences, paulinienne et pétrinienne, pour qualifier l'authenticité du témoignage. Et Luc a certainement comme perspective de réconcilier, mais pas de faciliter, mais de montrer que les deux convergent, mais en gardant certainement une sorte de parallèle qui fait qu'ils ont beau s'embrasser dans l'icône, en réalité, ils ne se rejoignent jamais complètement. Il y a toujours une sorte de concurrence ou de manque ou d'insatisfaction qui a été vécue par les deux. On en a comme ça de nombreux témoignages, notamment dans les lettres de Paul. Alors, cette sorte de désaffection de Paul pour Pierre, vous voyez, tellement lisible, doit avoir des raisons tout de même. Vous voyez, et cependant, en un sens, il finit par se rendre, mais pas complètement. Puis, comme dira Paul, à Rome, à la fin, il est quand même tout seul. Tous m'ont abandonné. Et si Pierre est déjà mort, c'est pas tellement le problème, et même le courant pétrinien, qui continue jusqu'à maintenant, a laissé tomber Paul. Et donc, là encore, oui, la différence entre les deux doit être saisie, avec l'idée de toute façon, et on va le fêter demain, c'est que la foi de l'Église repose sur Pierre et pas sur Paul. Mais il y a une surdimension paulinienne à cause du nombre des lettres et de l'intérêt que sa littérature procure, alors que l'apôtre Pierre, de manière curieuse et au plan historique, est très mal connu. Il est très mal connu. Alors, comment s'y prend Luc ? Avec quelques éléments, justement, dans son évangile. Vous voyez, déjà, la vocation de Pierre, au chapitre 5, lors d'une pêche miraculeuse, n'est pas la même que dans les synoptiques, Matthieu-Marc. Et comme par hasard, ça ressemble assez à un récit de Saint Jean, au chapitre 21, une pêche miraculeuse, mais qui se passe après la résurrection. Mais les deux textes, vous voyez, donc Luc 5 et Jean 21, présentent un certain nombre de contacts. Alors, il faudrait les étudier à partir d'un ensemble beaucoup plus large, qui sont les contacts complets entre l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. C'est-à-dire que les progrès de Luc, c'est plus un peu, ont été exploités par Jean. Mais pourquoi reprendre après Pâques des éléments qui ont été connus avant Pâques, chez Luc? Vous voyez, de la part de Jean, c'est tout à fait gonflé. Alors, on peut dire aussi que c'est Luc qui, connaissant les traditions post-pascales, a voulu comme les distiller avant l'événement pascal, pour suggérer que ce qui allait se passer après, de manière définitive, par exemple, la vocation de Pierre, était déjà, comme en filigrane, présent dès le début. Ça expliquerait pourquoi Luc explique cette vocation différemment dans son évangile que dans l'évangile dans les évangiles de Matthieu et de Marc, qui, au point de vue de l'histoire, de l'événement, convergent de manière assez claire. Et les éléments de déconstruction sont très intéressants aussi. Et oui, en même temps que Paul se désole de ne pas avoir connu Jésus dans son ministère galiléen, où il était catasarca, dans une chair fragile et mortelle, où le témoin oculaire ne pouvait pas voir grand-chose, du côté de Luc va montrer que cette connaissance-là, elle n'est pas enviable. Et par rapport à Matthieu, par exemple, le chapitre 9, je crois que vous l'avez vu, est une sorte de chamboule-tout. Les apôtres se révèlent tous absolument incompétents. Et même dans la vocation, dans la confession de Pierre, Pierre appelle le Christ patron. Et même dans la transfiguration. Oui, alors que dans Matthieu, il appelle Seigneur, dans un cadre de transfiguration. Oui, Pierre est absolument incapable d'être à la hauteur de ce qui lui sera demandé grâce à l'expérience pascale. On l'a au chapitre 22, alors juste avant, on est le jeudi saint, là encore c'est sur des textes propres à saint Luc, où Jésus avertit Pierre, donc tu vas chuter, quand tu seras revenu, confirme tes frères. Okay. Mais ce qui suppose que Pierre fera l'expérience de sa faiblesse et de sa chute. Mais là encore, même si Pierre n'a pas d'expression personnelle sur cet abandon, nous retrouvons là encore les multiples confessions de Pierre sur sa faiblesse et de Paul, pardon, sur ses faiblesses et sa propre incapacité. Et très frappé par le dernier écrit de Paul, vous voyez, qui est très surprenant, la deuxième lettre à Timothée. Donc Timothée, c'est vraiment son poulain, c'est son disciple, il lui a donné vraiment toute sa science, toute sa connaissance. Et de quoi Timothée doit-il se réjouir dans la dernière lettre de Paul? C'est d'avoir lu la Bible enfant avec sa grand-mère. Il faut quand même peser l'extraordinaire travail théologique fourni par ces deux grandes figures, et Paul est vraiment un très grand théologien, Pierre lui-même est un très grand théologien aussi, mais in fine, c'est la connaissance de l'écriture par sa grand-mère qui est son vrai bonheur, voyez, quand il était à l'éveil à la foi. Mais c'est d'une grande modestie. En fait, comme on n'a pas beaucoup de temps de continuer, en parlant de ça, là où Pierre et Paul, en fait, se réconcilient, c'est certainement dans l'interprétation de la Bible, donc de l'Ancien Testament, à la lumière du Christ ressuscité. Vous voyez, la première lettre de Pierre est tout aussi riche, et une seule lettre, vous voyez, est peut-être tout aussi riche que l'ensemble des lettres de Paul sur l'herméneutique christique de la loi et des prophètes. Et là, je crois que les deux, de fait, sont des figures parfaitement harmonisées. Et la dernière image que je voudrais vous suggérer, elle est bouleversante. Je l'ai apprise il n'y a pas longtemps, je l'ai lue il n'y a pas longtemps, j'étais voir dans les apocryphes, là, dans la Pléiade, c'est bien foutu. Connaissez-vous les traditions sur la mort de Paul ? Alors, il y a plusieurs apocryphes. Alors, la légende, entre guillemets, enfin, ce qu'il faut raconter, qu'on sort toujours, c'est Saint Paul, donc, aux trois fontaines, et on lui coupe la tête, et la tête, poum, 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 fait trois bonds, et puis il y a trois fontaines qui surgissent. Bon, c'est très joli, mais enfin, je veux dire, ça n'apporte pas grand-chose. Dans un autre, vous voyez, et je termine par là, vous voyez, c'est des questions aussi, c'est trop tard. Dans un autre texte, voilà ce qui est dit. Alors Paul, bien sûr, est en prison un certain temps avant d'être exécuté. Il devient copain avec tout le monde, mais ça, il fait toujours ça dans les prisons. On finit par le conduire un beau matin au lieu de son exécution. Et là, écoutez bien, parce que c'est tout à fait extraordinaire. très émouvant en même temps, les larmes viennent aux yeux presque, vous voyez. Il demanda un temps, on le lui accorda, il pria longuement, en hébreu, le Dieu des Pères n'ajouta rien et tendit son cou. Vous voyez ? Et je mets ça en lien avec l'idée de la deuxième à Timothée, où il dit à son disciple, c'est ta grand-mère qui t'a tout appris. Vous voyez ? Ayant tout découvert, vous voyez, sur le Christ ressuscité et en même temps sur le Christ avant, ayant travaillé comme Pierre de son côté sur cette synthèse, sur l'identité de Jésus et sur sa mission, et à la fois son identité plus que le fils de Joseph, sur la mission plus qu'Israël, avec les païens, mais une sorte d'ampleur, une ampleur insoupçonnée de l'identité et de la mission, elles sont comme coordonnées ou proportionnées. Finalement, Paul rejoint Pierre, et de manière, quand on en sait plus sur lui, sur cette idée que tout était déjà contenu dans la foi des pères, dans la foi d'Abraham. Vous voyez ? Être allé aussi loin dans le développement et le rendre et le faire coïncider avec le commencement de la connaissance par révélation de Dieu dans la figure d'Abraham. Je suis subjugué par ça. Alors, c'est très peu exploité, ça. Oui, le coup des trois fontaines, moi, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Hein. Et en même temps, oui, même au point de vue de... Quand on confronte avec les textes de Paul, il y a une vraisemblance. Oui, c'est pas de la poésie, c'est pas des Fioretti. Il y a une intention. D'ailleurs, si on cherchait un autre appui, on le trouverait alors chez Luc, justement, qui dans le troisième témoignage de Paul sur sa rencontre de Damas, du Christ ressuscité, dit bien à Césarée, moi, je ne prêche que ce que nos pères ont cru. Et il dit, je n'ajoute rien. Vous voyez, hein, comment l'extension du Christ, enfin, en quoi ça n'ajoute rien à la foi d'Abraham. Ou comment les meilleurs théologiens rejoignent au fond, comme dit saint Thomas d'Aquin, la vieille dame qui ne sait pas lire, mais qui croit de tout son être.
Vous voyez, voilà. Je dirais que quand on va au bout de l'esprit, il faut vraiment aller au bout du bout, comme a fait saint Paul, on se rend compte que tout était dans la lettre.
Oui.
C'est ça la résurrection, en fait. Hein, c'est...
Encore une fois, j'avais jamais eu l'occasion de faire cette petite confrontation. Elle est hyper élémentaire, mais elle appelle énormément de travail. On pourrait beaucoup travailler à partir de ces quelques données, et il y a quasiment rien sur le sujet.
Vous voyez, merci beaucoup.
Ben non. De vivre 100 ans.
Tu as cité Luc hein, comme un travail de réconciliation, mais tu vois, je me dis, l'évangile de Marc, c'est pourtant quand on le lit, on se dit, mais il y a quand même une bonne théologie paulinienne dans l'évangile de Marc, plus que dans les autres évangiles, je trouve. Et par ailleurs, la tradition, je ne sais pas si c'est pas Pierre, c'est vrai, vous dit, c'est le secrétaire de Pierre, et il traite Pierre de fait de manière particulière, peut-être moins respectueuse que dans sa Matthieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose de cet ordre-là chez Marc ? Il y en a très différent de Luc, mais...
C'est quand même marrant qu'on ne sache toujours pas vraiment l'ordonnance des quatre évangiles. Des moments, je mettrais la tête sur le bio pour dire c'est ça, et puis 6 mois plus tard...
Pour la chronologie, tu veux dire ?
Oui.
Ça se joue entre Matthieu et Marc, quand même.
Maintenant, moi, je mets toujours les évangélistes. Non, avant, je les mettais bêtement sur une espèce de même ligne de départ. Maintenant, je les mets sur les épaules les uns des autres. C'est-à-dire Marc, Matthieu, Luc, Paul, Luc, Jean, vous voyez, et chacun profitant du précédent. Un peu comme les statuts de Chartres. Cette image me semble féconde. Alors Paul là-dedans, où est-il? Mais alors Paul, vous voyez, en même temps, Paul, tout le monde s'est séparé de lui. Hein. Et Paul, si vous voulez, Paul a tellement l'inconvénient, pour finir, l'inconvénient, au fond, de commencer par le Christ ressuscité, c'est que pour lui, comme dans la première lettre aux Thessaloniciens, les temps derniers sont à notre porte. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Et en gros, on est tellement sauvé de la même manière dans le Christ que toute la communauté est appelée à faire en gros la même chose en même temps au pas. Vous voyez, parce que, vous voyez, il voit le terme. Pierre, qui a connu la progression, vous voyez, le perfectionnement de Jésus dans son humanité, historique, depuis l'enfance, l'adolescence, le ministère, la passion, et puis la résurrection qui achève, Pierre, lui, insiste beaucoup justement sur cette durée. Et ce que Paul ne fait que de manière, comment dirais-je, en y consentant seulement. Alors Pierre en a beaucoup plus conscience, et c'est intéressant, y compris dans la théologie contemporaine du pape, par exemple, successeur de Pierre, de montrer que cette dimension de progression, de perfectionnement, n'a pas toujours été adéquatement prise en compte au plan pastoral. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a exigé de manière immédiate des attitudes qui n'étaient possibles que dans la durée. Et Paul est assez frontal, Pierre ne l'est pas. Et pour Pierre, il y a plusieurs manières de vivre la suite du Christ. Et judéo-chrétien, pagano-chrétien, et on n'est pas obligé de faire en même temps le même menu, on ira à la messe ensemble, mais avant ou après, on peut bidouiller 2-3 minutes. Pour Paul, non, si vous allez à la messe, voilà, le même resto après, et puis fromage ou dessert, et puis taisez-vous. Et la foi de l'Église, elle ne repose pas sur... Non, mais la foi de l'Église n'est pas sur la théologie de Paul, mais sur la théologie de Pierre. Vous voyez? Et c'est peut-être le charisme, alors on n'ose plus parler de charisme romain en ce moment, mais c'est quand même la grâce de, justement, de la théologie romaine d'admettre justement cette universalité, en même temps cette souplesse. Bon, avec tout ce qui peut s'en suivre. Bref, encore un chantier.
Merci beaucoup, Henri. Merci. Et voilà.